Locaux présente ses podcasts en ligne.
Bonjour Jean Varela.
Bonjour.
Alors, ce festival qui s'ouvre le 1er juin, c'est en quelque sorte un festival de producteurs de théâtre et pas simplement de diffusion. Il me semble que c'est une des nouveautés de cette année.
Oui, c'est une étape très importante pour le festival et qui préfigure notre union avec le domaine d'eau, avec l'établissement public qui gère le domaine d'eau, pour arriver à la création de cette cité européenne du théâtre. Et pour marquer cette évolution, nous avons décidé de devenir producteurs en effet de spectacles, à savoir après la répétition d'un persona mis en scène par Ivo Vanov.
Mais alors, donc, vous faisiez déjà des coproductions, il y avait déjà eu des apports financiers, mais là, sauf que là, tout est créé ici et une grande partie du coût est assumée par le printemps. C'est ça la différence ?
C'est-à-dire que nous sommes à la maîtrise de ce spectacle. Nous avons discuté avec Ivo Vanov en amont des textes, des comédiens, et nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller chercher des coproducteurs. Le théâtre de la ville à Paris, où le spectacle jouera un mois, le grand théâtre de Luxembourg, le théâtre de Genève, de Bruxelles, de nombreuses scènes nationales en France, qui sont coproducteurs et qui accueilleront le spectacle. Et c'est le Printemps des comédiens qui, dans le cadre de cette cellule de production, prend le risque économique de la production.
Et ça, c'est une première.
C'est une première.
Alors, pourquoi Ivo Vanov ? Ça, c'est un de vos choix, ou comment s'est fait l'idée que ce serait lui qui ouvre cette nouvelle activité ?
Ivo Vanov et ce spectacle-là, je l'avais programmé quand Ivo l'avait créé en néerlandais. Il avait dû le créer en 2012-2013 et je l'avais programmé pour le printemps 2014. Et ce spectacle n'a pas joué puisque c'est l'année de la grève du mouvement social dit des intermittents. Et lorsque nous avons imaginé créer cette cellule de production, nous avons pensé à Ivo parce que c'est une des grandes signatures, c'est un artiste qu'on suit depuis longtemps, il était l'an dernier avec le Tartuffe de la Comédie Française, et que nous connaissions la qualité de ce spectacle-là. Donc nous avons fait un choix qui était un choix de à la fois prendre le risque économique et puis un choix un peu de sûreté artistique en allant vers un spectacle que nous connaissions.
Alors c'est aussi emblématique d'une évolution du site. Cette production, elle est portée par une entité en cours de construction, je crois, Printemps des comédiens et Domaine d'eau, pour aboutir à une cité européenne du théâtre. Voilà. Mais ça veut dire quoi exactement ? Quel avantage pourront y avoir les Montpelliérains et tout simplement, ça ressemble à quoi une cité européenne du théâtre ?
Une cité du théâtre, c'est une cité où on répète en permanence, où on crée en permanence, où on se forme en permanence, où on accompagne les publics en permanence. C'est un lieu ouvert, c'est un lieu de résidence, c'est un lieu de fabrication, c'est un lieu de transmission, c'est un lieu de formation. Et ça n'arrive pas par hasard. C'est un cheminement que nous avons initié depuis plusieurs années au Printemps des comédiens, avec l'accompagnement des promotions de l'École nationale supérieure, puisque depuis que je suis là, nous présentons les spectacles de sortie des promotions, avec le warm-up, qui est ce festival dans le festival, qui a aussi lieu en septembre, où nous permettons à des équipes de prendre des risques, de montrer des esquisses de projets, et du coup d'être en totale liberté, à accepter qu'une équipe peut échouer sur une intuition qu'elle a eue, ou accepter de voir apparaître ce qui peut être à terme un petit bijou. C'est le cas cette année d'Ismen, de Carole Fréchette, mis en scène par Marion Coutarel, que nous avions découvert lors d'un warm-up et que nous avons décidé d'accompagner, où ça a été le cas avec Striptease de Julie Begnenos et Marion Coutarel, que nous avons accompagné, que nous avons ensuite promu au festival Paris l'été. Donc voilà, c'est un accompagnement. C'est ce que nous faisons avec Campus, qui est ce cycle de masterclass, en quelque sorte une formation permanente. Donc tout un dispositif de coproduction d'abord, d'accompagnement des artistes, d'accompagnement du public, d'accompagnement de la formation. Je pense aussi au printemps des collégiens, comment amener des jeunes gens vers le sensible, vers la citoyenneté avec Shakespeare et citoyenneté. Donc c'est tout un corpus. Et aujourd'hui, c'est développer ça en affirmant que ce domaine d'eau, avec la multiplicité de ses outils, le théâtre Jean Cotte Carrière, l'amphithéâtre, le théâtre d'eau, le bassin, etc., seront des lieux où on viendra répéter, travailler et créer. Et ensuite que ces spectacles partiront en tournée en France et à l'international. Donc c'est le cas cette année avec Ivo. Nous sommes le premier coproducteur du spectacle de Julien Gosselin, le plus important coproducteur. Il répète ici depuis 3 semaines dans le théâtre de Jean-Claude Carrière. Et puis cet hiver, sur la saison d'hiver, il y aura une production très importante, internationale, au cœur de l'hiver, qui ensuite partira aussi en tournée dans la foulée.
Alors c'est aussi un signal à envoyer en ce qui concerne la culture montpelliéraine, c'est que jamais le théâtre n'a eu autant de, à la fois de, peut-être de moyens, je ne sais pas si vous aurez des moyens supplémentaires, en tout cas une telle affirmation et une telle organisation autour du théâtre. C'est, je pense que ça c'est relativement inédit à Montpellier.
Un signal à envoyer à qui ?
Un signal politique d'un soutien au théâtre et d'une grande ambition théâtrale.
Bah, C'est l'aboutissement d'un processus très long et très soutenu depuis la création du Printemps des comédiens par le département en 1987 dans la foulée des lois de décentralisation, repris aujourd'hui par la métropole avec toujours le soutien du département, la montée en puissance, et il faut le dire, de l'État qui est un partenaire aujourd'hui majeur de notre aventure et qui souhaite, en tout cas qui est très attentif sur ce projet de cité européenne du théâtre, à savoir ce lieu de création, car aujourd'hui c'est un des enjeux, comment on a les artistes sur leur parcours, voilà, sur le long terme. Oui, c'est un signal très fort, mais qui n'est rendu possible que par les politiques publiques, parce qu'il y a une volonté affirmée de Michael Delafosse, maire président, de structurer les maisons. Il y a la Cité européenne de la danse à l'Agora, ici. Nous espérons réussir cette cité européenne du théâtre. Il y a le Centre dramatique national, il y a le MOCO, il y a bientôt un MOCO à hauteur d'enfant. Voilà, il y a une structuration de la vie culturelle et qui, d'ailleurs, montre une maturité, puisque la vie culturelle montpelliéraine s'est construite en grande partie sur des festivals. Et en fait, on peut le dire aujourd'hui, sur des vitrines. Comment développer les lieux au tourisme ou l'attractivité économique de Montpellier. On se souvient de Montpellier la surdouée dans les années 80. Et ces festivals sont nés dans cette mouvance-là, au moment où les métropoles régionales, là encore dans la foulée des lois de décentralisation, s'épanouissaient. Et il fallait offrir aux cadres qui pouvaient venir s'installer une qualité de vie et notamment une vie culturelle. Et c'est passé ici par une dynamique festivalière. Aujourd'hui, ces festivals doivent participer de la vie de la cité à l'année. Et c'est ce qu'a déjà commencé Montpellier Danse avec sa saison à l'année. Et c'est ce que porte ce projet de cité du théâtre, une permanence. Ce qui permet également de mieux accompagner les spectateurs. Car lorsque, il y a quelques années, on a programmé un spectacle de Wajdi Wawad à l'amphithéâtre, et que cette année, il est revenu pour maire, il y a là un continuum, il y a là une reconnaissance. Lorsque Julien Gosselin est venu créer, il y a 4 ou 5 ans, à l'Agora de la danse, le marteau et la faucille, et qu'il revient, c'est la même chose. Ou Cyril Test, qui est né ici, pour ainsi dire, avec Nobody, je me souviens, on se tapait la tête contre les murs car personne ne voulait voir Nobody. J'avais dû même inventer un système un peu bête, mais ma foi, dire si vous voyez James Thierry, le spectacle de James Thierry, pour 1 euro de plus, en suivant, vous pouvez voir Nobody. Bon, l'année d'après, on a refait Nobody, les gens s'arrachaient les places. Donc, il y a cette formation du public, cette fidélité, cette reconnaissance qui est plus aisé avec un travail calendairement annualisé.
Alors là, vous êtes vraiment la tête dans le guidon, ça ouvre dans une semaine. Pour autant, avec investissant le champ culturel et théâtral avec autant d'ambition et de force, est-ce que de temps en temps, vous pouvez vous arrêter, faire un peu de prospective et dire, est-ce que c'est la forme pertinente, le théâtre aujourd'hui, de faire ce que je fais, que sera le théâtre, que seront les festivals dans 10 ans, dans 20 ans? Je pense à ça, pas seulement dans leur forme, mais aussi dans les déplacements que ça suggère. Vous avez, il y a une ambition, une espèce d'obsession écologique, quand même, dans la question, dans le monde culturel. Quand même, les structures doivent s'interroger là-dessus. Je vois qu'il y a des compagnies qui viennent de Guinée, du Chili. Est-ce que, parallèlement, vous ne portez pas une réflexion sur le devenir, l'avenir de ces, et les mutations nécessaires de telles structures?
Il me semble que ce que je viens de décrire en entame, à savoir création de la Cité du Théâtre et ce travail à l'année, montre une mutation majeure du festival. Pour sortir ce festival d'un temps calendaire contraint, voir se déployer pendant un mois un méta-événement mobilise les énergies des compagnies, du public, pour après laisser un champ vacant, en Cité du Théâtre permanent, ça va induire à court et moyen terme, et très certainement à long terme, des évolutions majeures. Le festival ne sera plus qu'un temps fort d'une permanence artistique. Les questions écologiques, nous y réfléchissons depuis plusieurs années, puisque depuis 3 ou 4 ans, nous avons embauché un référent écologique au Printemps des Comédiens, et nous serons un des premiers festivals à être labellisé par la région. Donc nous travaillons à ces questions-là depuis plusieurs années.
Quel label, pardon?
Il faudra demander le nom exact. C'est un label qu'a lancé la région Occitanie. D'accord. Et nous avons été un des festivals pionniers. Depuis 3-4 ans, nous avons eu un premier doctorant, un second. Là, nous avons un référent écologique qui travaille avec tous les secteurs de la maison pour essayer de trouver des solutions. Mais ça va du voyage des artistes à nos comportements au quotidien, à la bière. Là, aujourd'hui, j'ai eu à arbitrer sur, c'est très concret, hein, sur une bière circuit court beaucoup plus chère que la bière traditionnelle qu'on trouve dans des tireuses, parce que nous sommes sensibles à ça. Donc, tout est passé au peigne fin pour aller là-dedans, mais plus de façon plus ambitieuse. On peut voir, par exemple, que Gosselin, qui vient ici, et qui va aller ensuite au Festival d'Avignon, dans le Hin. C'est une nouvelle façon de penser la proximité et de se dire, ce n'est pas parce que Gosselin va créer ici et qu'il ira ensuite à Avignon que le public sera moins nombreux. C'est une nouvelle dynamique. Et un jour, un spectacle peut être créé à Avignon et venir l'année d'après ici. C'est ce que nous sommes en train de réfléchir avec Thiago Rodriguez, dans ce souci également de rationalisation des présences artistiques, des équipes, etc. Mais c'est un long cheminement, et là aussi, je pense qu'un festival n'est pas le meilleur endroit, parce que ce côté événementiel et coup de poing est très difficile à gérer de ce point de vue-là, alors que la Cité du Théâtre, dans son déploiement annuel, permet mieux ça.
Alors parlons quand même d'un peu d'artistique. Ivo Vanov ouvre avec, on l'a vu, avec un Tartuffe des origines l'an dernier. Cette fois, ce sont deux textes de Bergman qu'il aime énormément comme auteur, et deux acteurs importants, Emmanuel Berco et Charles Berling. Vous êtes intervenu dans le choix dans le casting de cette pièce.
Alors il y a Elisabeth Mazef et Justine Bachelet, je crois, vous vérifierez le nom. Ils sont quatre, en fait, merveilleux acteurs. Alors, moi, j'ai un directeur de la programmation qui est Eric Barthes, qui se charge plus de ça que moi, qui est plus à même d'accompagner les metteurs en scène pour le choix des acteurs. Moi, je peux dire mon sentiment. Mais autant, je peux vous dire, cet acteur me semble très bon, très juste, très puissant, autant dire cet acteur serait bien dans cette partition, c'est pas mon truc, c'est pas mon métier, je suis pas directeur de casting. Eric Barthes, à cet endroit-là, est beaucoup plus pertinent que moi. Et d'ailleurs, c'est une façon aussi d'animer ce Printemps des comédiens. Ce Printemps des comédiens est le résultat d'un travail en équipe avec Eric Barthes, Laurent Parigot, Martin Laurenté, l'équipe historique du Printemps. On décide en équipe des projets que nous menons. Moi, je ne suis que l'animateur de la maison.
Et donc, Bergman, Paris Vovanov, pourquoi ce choix? C'est un auteur de prédilection, je crois.
C'est un auteur que Ivo aime beaucoup. C'est un auteur qui a tout au long de sa carrière aussi entre le théâtre et le cinéma. Il avait une passion pour Strindberg et notamment pour Le Songe. Et d'ailleurs, après la répétition, les acteurs répètent Le Songe de Strindberg. C'est un acteur qui a révolutionné le regard du théâtre et de l'opéra par le cinéma, et c'est un hommage à l'art de l'actrice, à l'art de l'acteur. Ce qu'est intrinsèquement un acteur ou une actrice, on le voit, me semble-t-il, dans Après la répétition et dans Persona.
L'autre grande production qui lui succède le week-end prochain, c'est Julien Gosselin. Alors là, c'est 5 heures, ainsi que le Sylvain Creusevaux dont on va parler. Ivo Vanov, c'est 2h40, je crois, ou pas loin de 3h. Il y a beaucoup de spectacles très longs. C'est pas rien, 5h ou 5h30.
Non, c'est pas rien. Et alors, je dis souvent aux spectateurs qu'au théâtre, on peut s'ennuyer au bout d'un quart d'heure et puis au bout de 5h, trouver que c'est déjà fini. Bon, mais c'est vrai que ce sont des épopées. Je parle surtout d'Extinction que monte Julien Gosselin et d'Esthétique de la Résistance que monte Sylvain Creusevaux, qui dure, je crois, 5 ou 6 heures. 5 heures et 2, on ne sait pas, avec Creusevaux, c'est toujours un peu aléatoire.
Avec des entrailles.
Ah, oui, alors nous, comme on est un peu toujours inquiet de ces durées par rapport au public, on dit ça dure 4h30 plus entr'acte. Bon, non, mais ce que je veux dire sérieusement, c'est que les festivals sont sûrement, pour le coup, les bons endroits pour montrer ces épopées. Parce que ces temps suspendus que devraient être les festivals, où on rentre en festival, on se plonge dans le festival, permettent de penser le temps autrement. C'est le mois de juin, on va passer notre mois sous la pinède, et on prend le temps. Et le temps est suspendu, le temps est différent. Et la qualité de l'air peut être différente dans le théâtre. Notamment avec Extinction. Normalement, je ne devrais pas le dire, Julien ne veut pas, mais bon. La première partie, c'était un concert de musique électronique. Après, oui. Il y a son travail je vois les répétitions, c'est époustouflant. Je ne peux pas dire ce que sera le spectacle, parce que vous avez vu, là, on a des amis qui étaient dans le bureau, qui venaient de voir un bout de répétition et qui étaient halluciné par l'immensité du défi des acteurs de la Volksbühne en allemand, des acteurs français, de la musique en direct, du cinéma, un décor qui ressemble à un studio de cinéma. Bon, c'est une alchimie, une mécanique à mettre en place extraordinaire. Et quand je vois Julien répéter, je suis fasciné par sa rigueur, son enthousiasme, la façon dont il dirige les acteurs, dont il dirige la technique. C'est un maître d'œuvre inouï. Et puis il y a l'Esthétique de la Résistance, qui est aussi une épopée. Donc oui, les festivals permettent ces épopées, sont l'endroit de ces épopées. On se souvient tous du soulier de satin dans la cour d'honneur mis en scène par Vitesse. Ces nuits où on dormait, on se réveillait. Il n'y a rien de mieux que de dormir dans une salle de spectacle.
Alors, pour Gosselin, c'est Thomas Bernard, un fils en terre son père nazi, pour le dire très vite. Et puis, le nazisme encore avec l'esthétique de la résistance mise en scène par Creusevaux. Mais peut-être pourrait-on dire de chaque édition, c'est politique, c'est très politique. Et puis il y a un Léon Blum aussi.
Le théâtre est politique. Oui. Dès que vous montez sur un plateau et que vous prenez la parole, c'est politique. Et il se trouve que là, sans avoir décidé de tirer ce fil, les artistes nous questionnent beaucoup sur l'état du monde et notamment l'état de l'Europe. Donc Extinction, Thomas Bernhard, Schnitzler, l'Europe, la Vienne des années 1920, vous l'avez dit, ce fils qui va refuser un héritage qui a du sang sur les mains. Esthétique de la résistance, Peter Weiss, c'est comment résister à la montée du nazisme. Et puis, il y a cette épopée aussi, parce qu'on a, on a parlé de deux épopées, mais il y a l'épopée Léon Blum, ouais. À partir du podcast de Philippe Collin, 6 heures d'un spectacle participatif, joyeux, foutraque, avec le chœur de l'Opéra de Montpellier, musiciens, Patrice Barthes comme danseur, des comédiens amateurs, Philippe Berling, pour nous raconter...
Charles Berling,
c'est son frère.
Pour la deuxième fois, donc.
Oui,
c'est la deuxième fois.
Oui, Charles, c'est la deuxième fois qu'il sera là. Ça va être, là aussi, et Charles le dit très bien, d'ailleurs, j'y avais pas réfléchi comme ça, mais en discutant avec Charles, c'est aussi une façon renouvelée de... à la fois renouvelée et ancienne, parce que les anciens de la décentralisation l'ont fait, de penser un spectacle de théâtre en faisant venir des amateurs sur ce moment de Léon Blum avec ce pique-nique, ce bal populaire. Voilà, on va voir ce que ça donne.
Ah oui, c'est ça, un banquet républicain et un bal à l'issue de ce Léon Blum. Moi, j'ai choisi de vous parler aussi de ça, mais on pourrait parler de tellement de choses. Un objet certainement visuel, prodigieux, étonnant, c'est le Ubu de Bob Wilson.
Oui.
On l'a déjà vu, Bob Wilson, au printemps.
Non.
Non.
Il est venu à l'opéra au Corum.
Et oui.
Avec le fameux opéra
de Philip Glass,
mais au printemps non. C'est l'invitation à un maître, un homme qui a révolutionné le théâtre. Là aussi, avec une œuvre qui a marqué, une œuvre qui nous parle donc d'un pouvoir. Tyrannique, de Ubu, et qui a été inspiré, le travail a été inspiré à Bob Wilson parce qu'il a appris qu'avait fait Juan Miró autour du personnage d'Ubu pour dénoncer le franquisme en Espagne. Donc vous voyez, ça tourne. Juan Miró avait fait des marionnettes géantes, des litos sur la figure d'Ubu.
Je vous laisse peut-être dire un autre spectacle qui n'est pas dans cette sélection que vous avez envie d'évoquer. C'est un peu injuste, hein, parce qu'il y a tellement de propositions.
Peut-être le diptyque Shakespeare avec les comédiens de la Bulle Bleue.
Oui, avec Marie Lamachère.
Avec Marie Lamachère, parce que c'est un défi immense de monter le songe et la tempête. Et c'est aussi... un signe que la filière théâtre se structure à tous les niveaux sur Montpellier, parce que cet ESA de la Bulle Bleue fait un travail merveilleux, on s'y sent bien, les acteurs sont magnifiques, et en partenariat avec le Centre Dramatique National, nous avons décidé de coproduire fortement ce projet. Et voilà, c'est une prise de risque immense, mais une joie d'être de la partie.
Vous dites joie, alors ici on sent qu'il y a une parenthèse, une effervescence, une utopie qui est à son maximum là en ce moment, tandis que le monde culturel peine et souffre, on l'entend ça, cette petite musique un peu triste en permanence, et que toutes les structures, tous les festivals ont de gros problèmes parce que tout coûte cher, tout coûte beaucoup plus cher, et pour autant vous n'avez pas trop changé vos tarifs de ce que je vois.
Alors on a... pas bouger nos tarifs, et on a même créé un tarif pour les 20-30 ans à 6 euros pour tous les spectacles. Ouais. Ce qui fait que les jeunes ont le pass culture, les étudiants le youth, qui est un tarif porté par le CROUS, et nous on a prolongé 20-30 ans, on peut venir voir tous les spectacles pour 6 euros.
D'accord.
Enfin, chaque spectacle pour 6 euros.
D'accord.
Voilà.
Et donc, ces jeunes qui vont venir, qui sont vraiment évidemment...
J'espère.
ils vont être aussi face à un théâtre de texte. C'est un peu pléonasmatique ce que je dis là, mais un théâtre qui porte le verbe et le texte très très haut. Il y a plein de formes de théâtre très très différentes. Ici, au printemps, on a l'impression que vous êtes là à cet endroit-là.
Mais non, il y a toutes les formes au printemps. Il y a Oasis de la Impunida, c'est un théâtre corporel par les Chiliens.
Ah, oui.
Il y a du théâtre documentaire avec les Libanais, Rabin Broué et Majalani. Il y a des jeunes gens. Le cirque guinéen, j'en parlais pas parce que c'est du cirque, mais oui, il y a des jeunes gens qui ont 30-35 ans comme Gosselin, Creusevaux, il est peut-être un peu plus âgé, mais qui porte ce théâtre de texte, mais avec leur énergie. Ce sont les acteurs du groupe 47 du Théâtre National de Strasbourg qui jouent le spectacle de Creusevaux. Donc, ce sont des jeunes gens venus de la diversité, parce que Stanislas Nordet a fait à l'école du TNS un vrai travail sur la diversité des origines des acteurs. Donc, il y a une diversité, encore une fois, au plateau immense. Gosselin utilise toutes les technologies. Ça va commencer par un concert de musique électronique à tout casser. Donc, je ne crois pas que c'est notre vieux public, parce qu'on dit souvent au printemps, et c'est vrai qu'on a un public âgé, installé, et c'est vrai, et on en est heureux. Parce que il est notre socle et on essaie de l'élargir et on essaie de faire en sorte que ces jeunes gens ne pensent pas que le théâtre est affaire que de retraités, même si aujourd'hui la retraite est beaucoup plus lointaine.
Très bien. À ce stade-là, à une semaine avant, dernière question, qu'est-ce que vous craignez le plus ? Bon, vous avez une machine qu'on sent vraiment très, très huilée, etc. Mais vous, qu'est-ce que vous craignez le plus ? La pluie, peut-être ?
Non, la pluie, c'est merveilleux.
Ah bon ?
Mais non, la pluie, évidemment qu'on regrette quand il pleut, mais on pense à nos amis vignerons et agriculteurs et qui ont besoin d'eau. Et donc, toutes les pluies préparent les récoltes de demain.
Merci Jean Varela.
Merci.
Locaux présente ses podcasts en ligne.